Mesdames et messieurs, nous allons donc recommencer là où je vous avais laissé la semaine passée, je crois, avec cette jolie tête du roi Ménandre. Mais avant, je voudrais vous faire deux annonces. La première, c'est que ceux qui s'intéressent au début de l'art du Cachemire et qui n'ont pas étudié le... qui n'ont pas écouté le cours que j'ai donné il y a une quinzaine d'années sur ce sujet, peuvent venir écouter la conférence que je donnerai au musée Cernucci le 28 avril à la Séchac sur ce sujet. Par ailleurs, une collègue indienne qui est professeure à l'Université de Calcutta et directrice du département d'histoire de l'art et d'histoire ancienne de cette université passera à Paris au mois de mai et elle donnera une conférence sur le site bouddhique de Mainamati au Bengale le 17 mai à 16h dans cette même salle. Il y aura une annonce plus détaillée. Mainamati est le grand site bouddhique du Bangladesh. On ne parle pas beaucoup du Bengale en France, alors que c'est quand même une des provinces les plus intéressantes de l'Inde. Et là, il s'agit d'un pays, puisqu'il s'agit du Bangladesh. Et vous savez que, malheureusement, l'exposition sur l'art du Bengale que devait faire le musée Guimet il y a 2 ans a été annulée au dernier moment. Alors, si vous voulez voir des photos de ce grand site, venez écouter Madame Gauche. Vous pourrez aussi lui poser des questions. Voilà. Donc, voici une monnaie indienne du roi Ménandre qui a l'étymologie, qui a l'épithète de Soteros, sauveur, qui est traduite absolument de façon littérale. Le mot roi, Basileos, comme je vous l'ai expliqué, est traduit par Maata Rajasa, et le nom Soter est traduit par Tratarasa. Vous remarquerez que l'iconographie est purement grecque, avec un casque grec, un visage, je ne sais pas si c'est le nez grec, mais ça ressemble assez, et une Athéna brandissant le foudre. Alors, les monnaies de Ménandre sont très nombreuses, c'est un des souverains qui a laissé le plus de monnaies. En voici d'autres qui sont peut-être un peu... Non, ça c'est un straton, donc excusez-moi. J'ai un seul Ménandre. J'en ai un autre ici. En voici un autre où il est décrit comme un guerrier sans casquet avec exactement la même légende. Et le revers exactement identique, mais beaucoup plus précis. Vous voyez par exemple la gorgone, la tête de gorgone sur le casque d'Athéna. Alors Ménandre est un roi intéressant car ça a été sans doute un des plus grands rois grecs de l'Inde. Nous en avons quelques traces littéraires en grec, nous en avons plus dans les textes indiens puisque tout un livre porte son nom, Les questions de Milinda. Ce livre prétend qu'il a été converti au bouddhisme, ce qui n'est certainement pas vrai. Mais en tout cas, il a laissé un grand souvenir et à la fois ses monnaies. Et ce livre vous montre ce qu'a pu être le pouvoir des Grecs de Bactriane et d'Inde au 1er siècle avant notre ère, ou au début du 2e siècle avant notre ère. Si on reprend... Vous aviez déjà dans ces monnaies d'Agathocle une indication sur la façon dont ils se sont conduits en Inde, puisqu'ils ont probablement dans la région de Mathura adopté comme type monétaire des dieux indiens. Il s'agit ici de Balram et de Krishna, sur lequel Madame Schmidt vient de faire paraître sa thèse à l'EFEO. Et ils ont également adopté, à côté de leur écriture grecque, ils ont adopté l'écriture de la région de Mathura, ici la Brahmi, Agathocleus, et Agathocleiasa. Non seulement donc l'écriture, mais également une transformation du mot en langue indienne, ce qui est symboliquement très important si l'on compare, par exemple, à cette monnaie de Démétrios, où vous voyez qu'il n'y a que du grec, et vous voyez que la légende est entièrement grecque. Le passage en Inde s'est traduit par le fait que les monnaies, au lieu d'être sur le système attique, sont passées sur le système indien, que parfois la forme a changé. Par exemple, il y a des monnaies quadrangulaires, et au droit, vous avez la légende en grec, mais au revers, vous avez toujours la légende en langue indienne et en écriture indienne, qui normalement n'est pas la Brahmi que je vous ai montrée il y a un instant. La Brahmi, je vais vous la remontrer. Voilà, qui n'est pas cette Brahmi-là, qui est l'écriture de la vallée du Gange, mais qui est la Karoshti, qui est l'écriture de la région du Nord-Ouest. Ceci prouve que, contrairement à ce qu'ils ont fait en Bactriane, ces souverains grecs de Bactriane, il y a des monnaies très rares, mais il y a des monnaies gréco-bactriennes de Ménande, c'est-à-dire à légende uniquement grecque, se sont adaptés à l'Inde et ont voulu avoir une espèce d'association entre la civilisation grecque et la civilisation indienne. Ça se voit donc dans ces monnaies où le symbole politique est très fort. Ça se voit dans le fait que les seules attestations de noms grecs que nous ayons ne le sont pas dans des inscriptions en langue grecque, mais elles sont dans des inscriptions en Karoshti et en Brahmi. Nous avons une dizaine d'inscriptions qui ont, dans le Nord-Ouest, qui émanent de gens qui sont grecs, parfois de gens qui sont d'un très haut niveau, comme des méridarques, des gouverneurs de province, et qui sont dans le Nord-Ouest en Karoshti. Il y en a une célèbre à Besnagar, c'est-à-dire au Madhya Pradesh, pas très loin de Sanchi, où l'inscription est en Brahmi et émane d'un Héliodoros, c'est-à-dire un nom particulièrement grec, qui est ambassadeur du roi de Taxila et qui se présente comme un Bhagavata, c'est-à-dire un dévot de Vishnu. Il y a donc manifestement eu, contrairement à ce qui s'est passé en Bactriane, une espèce de synthèse gréco-indienne dans les territoires du Nord-Ouest, puisque ce sont ceux qu'ils ont gardés le plus longtemps. Ils sont allés au moins jusqu'à Mathura, mais là, ils ne les ont pas gardés très très longtemps. Ça se traduit aussi probablement par des mariages, ce qui est beaucoup plus difficile à voir, parce que d'abord, les épouses n'apparaissent pas très souvent, mais on a au moins un cas où l'on s'aperçoit, beaucoup plus tardif, où l'on s'aperçoit que l'épouse est grecque, que l'époux est probablement un descendant d'envahisseurs nomades, mais qui a changé de nom. Il y a eu manifestement des intermariages, des choses que nous n'arrivons pas à bien déterminer, mais rien que par les monnaies et par les inscriptions, aussi par le Milinda Panna, on voit que les Grecs se sont beaucoup intéressés à la civilisation qu'ils rencontraient et ont essayé d'associer à leur pouvoir un certain nombre d'Indiens. Là encore, essayer d'associer à leur pouvoir un certain nombre d'Indiens, on n'en a aucun témoignage, parce qu'on n'a pas d'inscription qui nous dit que M. Bhagadatta a été le ministre de Ménand, donc quelque chose de ce genre-là. Enfin, on peut quand même le supposer quand on voit ces monnaies. Alors, ils ont quand même apporté beaucoup de choses. Ils ont apporté d'abord un nouveau calendrier, puisque l'on sait de façon sûre par une inscription de Mathura qu'il y avait un calendrier du royaume grec, dont le début n'est pas fixé, mais qui renvoie donc directement à la domination grecque et qui a duré plus de 150 ans. On sait qu'ils ont amené avec ce calendrier les mois macédoniens. On a une vingtaine d'exemples de noms de mois macédoniens, côte à côte avec des noms indiens, c'est-à-dire qu'il a eu certainement eu un système d'assimilation du calendrier indien au calendrier grec, ou inversement. On sait aussi par les fouilles de Chayramdéri, menées par Armada Sandani, qu'ils ont apporté une poterie tout à fait spécifique, qui est la même qu'on trouve en Bactriane, en particulier à Eranoum. Et l'on sait par les mêmes fouilles de Chayramdéri qu'ils ont probablement eu un système de fondation de nouvelles villes. Je vous ai montré l'autre jour le site de Charsada, qui est le site qui a été pris d'assaut par Alexandre, le site de Pushkalavati. Sous les Grecs, on ne sait pas exactement à quelle date, le site a été changé. Alors, il ne veut pas s'agrandir. On va essayer de l'agrandir quand même. Voilà. Et il se trouve ici, au nord de Charsada. C'est le site dit de Chayramdéri, que l'on ne peut malheureusement pas agrandir, et qui a été fouillé par un très grand archéologue pakistanais, d'origine bengalie d'ailleurs, qui s'appelle Armada Sandani. L'histoire de ce site est assez instructive pour la carrière des archéologues. C'est le site que cherchait Sir Mortimer Wheeler, un site grec, avec une planification grecque. Il a pensé le trouver à Charsada, qui est là. À Charsada, c'était la ville pré-grecque. Et puis, il a été plus ou moins mis à la porte du Pakistan. Je vais essayer de réduire ça. Il a été plus ou moins mis à la porte du Pakistan et son successeur a pu bénéficier de photos prises par la Pakistani Air Force qui montraient les traces d'un quadrillage à Chayramdéri. Et la fouille s'est faite là, sous la direction d'Armada Sandani, qui était alors professeur à l'université de Peshawar, où il a monté un très beau département d'archéologie, qui existe encore, et où a participé un jeune archéologue qui s'appelait Alchin, Bihar Alchin. Alors la fouille a été menée plus ou moins bien, mais elle a été entièrement publiée, et en particulier, la céramique a été publiée. Il est tout à fait clair qu'on est dans la période grecque avant l'arrivée des nomades de type Saka ou de type Parthe. Et c'est une caractéristique apparemment des Grecs de cette époque que lorsqu'ils s'établissent, ça suit la tradition alexandrine, ou d'Alexandre plutôt, ils établissent une ville avec des fortifications à la grecque qu'on n'a pas retrouvées à Chaerenderi. Vous voyez que le tépé est mangé par les champs. Et un quadrillage, ce qu'on appelle le plan hippodamien, c'est-à-dire qu'au lieu des ruelles tortueuses des villes indiennes, encore maintenant, vous avez un quadrillage qui est implanté dès le début sur le terrain, avant même la construction, avec de grands axes et des petites routes, des petites rues qui coupent ces grands axes à angle droit, et probablement une citadelle. Alors, c'est ce qu'on a trouvé à Eranoum. C'est ce que l'on voit à Chaerenderi, dont on ne connaît pas le fondateur. C'est ce qu'on voit également à Taxila Sirkap. Mais là, à Taxila Sirkap, ce n'est pas la ville indo-grecque que l'on voit, c'est celle qui lui a succédé, probablement sur le même plan, qui est la ville Saka. C'est une des choses que les Grecs ont faites, et ça pose un certain nombre de questions par rapport au peuplement. Il est clair que les Grecs s'établissant en ville, dans des villes nouvelles, ont très probablement amené avec eux un certain nombre de gens pour peupler ces villes, qui sont comme des bastions en pays colonisé, bien que les Grecs aient voulu encore une fois s'attirer les bonnes grâces de la population. Et qui étaient ces gens ? C'était manifestement des gens de Bactriane, c'est-à-dire soit des descendants de Grecs, descendants depuis trois ou quatre générations, établis en Bactriane, soit des Bactriens, c'est-à-dire des gens de langue iranienne et de religion mazdéenne, honorant comme l'un des dieux principaux, en tout cas Ahura Mazda. Pas tout à fait des Zoroastriens, mais en tout cas des Mazdéens. Et l'on voit que à un peuplement où il y a dû y avoir des Perses, à un peuplement qui n'était pas considéré par les compagnons d'Alexandre comme purement indien, succède à un peuplement où il y a encore de nouveaux flux d'étrangers. On est dans un pays, et d'étrangers là qui ne sont pas du tout indiens de culture, ni indiens de religion, sauf à se convertir. La différence, c'est que ce sont des étrangers cultivés et des étrangers qui s'intéressent au pays et dont certains se convertissent aux religions locales, peut-être d'ailleurs en appelant Krishna Héraclès ou en appelant Vishnu Dionysos. Ceci est un autre problème, mais très probablement il y a eu des conversions. Donc, par rapport à la suite des événements et à ceux qui s'intéressent à la genèse de l'art du Gandhara, c'est une des choses qu'il faut absolument se souvenir, c'est qu'on a un peuplement mixte. On est en région indienne, c'est tout à fait clair par la langue, c'est tout à fait clair par la syntaxe de la langue et son vocabulaire, mais avec un peuplement très mixte et une division assez forte entre les villes qui essaient de se conformer à la civilisation grecque et probablement les campagnes qui sont censées alimenter les villes. Alors, ce qui se passe dans les campagnes, on n'en sait rien, ça, évidemment. Cette période va durer à peu près un siècle, et il ne faut pas croire que ce soit une période de paix. De ce qu'on peut voir par la numismatique, puisque c'est notre source essentielle, de ce qu'on peut voir par la numismatique, puisque c'est notre source essentielle, Il y a eu beaucoup de guerres civiles entre Grecs, c'est-à-dire que la guerre a continué. C'est un pays qui a été constamment en guerre et l'on imagine très bien, en particulier au 1er siècle avant notre ère et au début du 1er siècle de notre ère, que la Bactriane et l'Inde surtout ont été fractionnés en petits royaumes plus ou moins indépendants. Quand vous voyez les monnaies tardives, celle-ci n'est pas l'une des plus tardives, mais c'est quand même une monnaie qui doit être postérieure d'un siècle ou de 80 ans à la monnaie que je vous ai montrée. Cette monnaie du roi Épiphane sauveur Straton, et c'est traduit de la même manière ici, Maharajasa, Mahatasa, Aparajitasa et Tratarasa. Vous voyez que, bien que la monnaie ne soit pas dans le même état que celle que je vous ai montrée auparavant, les types restent grecs, les légendes restent les mêmes, mais la qualité est nettement moins grande. Et effectivement, plus on va vers la fin du royaume grec, et plus la qualité des croix, et plus la quantité de monnaie attribuable à tel ou tel roi décroît. On a manifestement affaire à des petits rois, et des petits rois sans grand pouvoir. Alors, ce qui se passe est au 1er siècle est une histoire sur laquelle on est beaucoup revenu depuis un siècle et demi, sur laquelle on revient encore. C'est que deux grands groupes de nomades ont quitté l'Asie centrale et ont d'abord envahi la Bactriane, puis faisant comme les Grecs, les Indo-Grecs. Nous le savons par les sources chinoises qui sont privilégiées. Les sources grecques nous disent des choses un peu différentes. Alors, il y a une première vague. C'est un peu trop sensible. Il y a une première vague, celle dite des Saka. Et là, le nom est un nom qui est familier, puisqu'il est déjà connu des Perses. Il apparaît en chinois sous une forme simple, qui sont les Saï, qui sont une confédération de tribus chassées de ces territoires quelque part au nord de l'Ouzbékistan par une autre tribu ou une autre confédération de tribus, les Yuezhi, chassées des territoires qu'elles occupaient au Kansu par une autre confédération, les Yongnu. Les Chinois ont suivi cela. Et donc, les Chinois nous disent qu'il y a eu deux groupes, les Saka, ou Sai, et les Yuezhi. Ces Yuezhi n'apparaissent pas dans les sources grecques qui, elles, partent de trois ou quatre confédérations, les Assioi, les Passianoi, etc. Ceci n'est pas nécessairement contradictoire, parce que rien n'indique que ce que les Chinois désignent d'un seul nom soit un ensemble unitaire. En fait, ce sont des confédérations de tribus qui se donnent un chef pour un temps donné, ou qu'un chef réussit à unifier pour un temps donné et qui ensuite éclate, et qui, de toute manière, à l'intérieur de ces confédérations, les groupes gardent une certaine identité. Mais ce qui est clair, c'est qu'on a deux grands mouvements et que ces mouvements portent sur des tribus qui sont de langue iranienne. Des Iraniens qui n'ont jamais mis les pieds en Iran, hein, parce que linguistiquement, l'Iran s'étend beaucoup plus à l'est que l'Iran actuel. Celle que l'on connaît à peu près le mieux, enfin, celle sur laquelle on connaît les mouvements, ce sont les Saka. On sait par les sources qu'ils sont passés par le nord. On n'en a aucune trace en Bactriane, et donc on suppose qu'ils ont contourné la Bactriane par le nord et qu'ils sont descendus en Inde par cette région, la frontière indo-iranienne, où vous voyez que vous avez l'île Mande et un grand lac, et qu'ils sont arrivés ici par la passe de Bolan, probablement. Pourquoi est-ce qu'on fait cette supposition ? C'est tout simplement parce que cette région s'appelle, à partir de cette époque, le Sakastan, ce qui a donné le Seistan, le nom qui existe encore pour cette région. Et l'on suppose aussi qu'il y a un petit groupe auparavant qui a fait la très difficile traversée du Pamir, soit de là, et qui, en descendant par Gilgit, est arrivé directement sur le nord-ouest de l'Inde et sur le Gandhara. Alors, ce groupe serait plus ancien. Ici, ça se passe aux alentours de 100 avant notre ère. Il faut dire que le trajet est plus direct et son nom est lié à celui d'un souverain important qui s'appelle Moès, dont on a trois attestations épigraphiques. L'autre groupe est arrivé, dont on ne sait rien sauf le nom Sakastan, est probablement arrivé dans le nord-ouest aux alentours de 70 ou 80 avant notre ère. Et les deux ont dû combattre pour prendre possession de cette région les groupes installés avant. Et parmi les groupes, il y avait donc les Indo-Grecs qui étaient là, et puis un troisième groupe, ou un quatrième, comme on veut, qui était un groupe tout à fait lié par les noms et par la numismatique aux Parthes, et qu'on appelle les Indopartes. Donc on se retrouve avec deux groupes Saka, un groupe Indoparte, les derniers Indo-Grecs, et tout ceci se passe au 1er siècle avant notre ère. La lutte finale, si j'ose dire, se passe au 1er siècle avant notre ère, et là, c'est vraiment très... On voit qu'il y a des successions de prises de territoire, de pertes de territoire, de reprises de territoire, mais le dernier arrivant, celui qui va tout emporter, seront les Yuechi, qui sont arrivés dans le nord de la Bactriane, c'est-à-dire au nord de la rivière Oxus, au nord d'ici, probablement vers 150 avant notre ère, qui ont passé la rivière en 100 avant notre ère, pris toute la Bactriane et qui s'infiltrent sous la conduite de Kujula Kadphises dans le Gandhara aux alentours de 20 de notre ère. Les chiffres ne dépendent pas de la date de Kanishka, fort heureusement, mais entre 20 et 50, tout ce que l'on peut voir, en particulier par les monnaies et par les surfrappes et par les trouvailles d'inscription, c'est que ces trois groupes, les Saka, les Indopartes et ce que l'on appelle désormais les Kushans et non plus les Yuechi, se sont disputés le pouvoir jusqu'à la victoire finale des Kushans. Alors, l'un des souverains importants des Saka, ce n'est pas le seul, il y en a eu beaucoup, mais ça c'est le plus important, c'est Azès, dont on sait dont je pense qu'il a commencé à régner en 58, mon collègue Falk, 10 ans plus tôt, ça n'a pas beaucoup d'importance, dont nous avons des monnaies. Ici, vous avez une monnaie d'argent d'Azès Ier. On lui donne le nom de Un parce qu'il porte la lance. Et vous remarquez que le portrait du roi que vous aviez par exemple sur les monnaies de Ménandre ou sur les monnaies de Démétrios est remplacé par un portrait à cheval du roi. Au lieu d'un buste, vous avez le portrait à cheval du roi. Ce sont des peuples nomades. Ce roi porte une cuirasse faite de plaques en fer, c'est ce qu'on appelle les cataphractaires, et une lance, c'est de la cavalerie lourde. Et le type est un type qui n'est pas grec du tout, qui est analogue à ce que l'on trouve d'une autre manière sur des monnaies bactriennes des Raios, un des premiers couchants, mais qui marque manifestement le pouvoir du roi comme chef d'une troupe de cavaliers et de cavaliers lourdement armés. Ce ne sont pas des Mongols en peau de bête. La légende, elle est absolument grecque, sauf que le nom qui apparaît, le titre royal, désormais n'est plus Basileos, n'est plus grand roi, mais qu'il est Basileos Basileon. Et puis vous avez le nom Azou qui est là, qu'on ne voit pas très bien. Là, elle est reprise ici, et la traduction de Basileos Basileon, Maharajasa Rajati Rajasa, est accompagné, Maatasa, grand roi, est accompagné du nom d'Azès Ayasa, que vous voyez ici. Et le type de revers reste grec, avec un monogramme grec et un monogramme indien. Il est tout à fait clair que des gens comme Azès prennent la succession des Grecs. C'est une monnaie de type grec. C'est une monnaie qui marque l'arrivée d'un nouveau pouvoir et probablement l'arrivée d'une nouvelle formation politique. Je dis bien nouvelle formation politique parce que Basileos Basileon, qui est le titre iranien de roi des rois, a une signification pratique tout à fait nette, c'est-à-dire qu'il y a sous le roi Azès une série de rois telés, et de hauts fonctionnaires semi-indépendants, et que le roi est simplement au sommet de la pyramide. Le pouvoir ne vient pas de lui, il est simplement au sommet de la pyramide, et il fédère tous ces gens-là. Alors, qui sont ces gens qu'il fédère ? Vous avez d'une part des Iraniens, qui s'appelle Kshatrapa ou Mahakshatrapa, c'est le titre de satrape, et on en connaît plusieurs. Le plus célèbre est Rajuvula, dont on a des inscriptions à Mathura. Leur pouvoir est allé très loin, mais le centre, c'était la région du Gandhara. Et vous avez d'autre part des tribus fédérées. Ces tribus fédérées, on les connaît depuis une vingtaine d'années grâce aux inscriptions dites des rois d'Apracha et des rois d'Odi, qui sont des inscriptions qui viennent de la bordure montagneuse autour du nord-ouest. Elles sont toutes passées par le commerce d'antiquité, donc on ne sait pas exactement d'où ça vient. On pense que les rois d'Odi, c'était le bas du Swat, et les rois d'Apracha, peut-être le Bajaour et le Tira. Et ces inscriptions sont intéressantes parce qu'elles se réfèrent à l'ère d'Azès et parfois commencent par la mention de l'ère du grand roi Azès décédé. Ils sont donc feudataires de cette dynastie. Les petits souverains qui se donnent le titre de Raja portent des noms absolument indiens, et non seulement indiens, hindous. Ils s'appellent Indravarman, Vishnuvarman, et ils sont, ou en tout cas ils favorisent le bouddhisme. Ce sont ces souverains, dont on reparlera quand je parlerai des religions, qui introduisent les premières fondations bouddhiques dans cette région montagneuse. Et quand on réfléchit à la façon dont ils se sont procuré l'argent pour établir ces fondations bouddhiques, qui ont dû être assez chères, c'est cher de faire une fondation bouddhique, Si vous voulez bâtir, il faut bâtir un monastère, ça coûte pas très cher. Il faut bâtir un stupa, ça coûte pas très cher non plus, puisque la main, c'est du caillou, de la terre, et la main d'œuvre est gratuite. Il faut trouver des reliques, et ça s'achète probablement très fort, très cher. Et puis il faut meubler le monastère. Un monastère, c'est pas simplement un bâtiment. Donc il faut amener des moines. Des moines, il faut en amener au moins 5 pour que la communauté soit valide, et il faut s'engager à les nourrir. Et puis quand on a fait tout ça, il faut faire une grande cérémonie d'inauguration qui coûte très cher, parce qu'on fait venir des moines d'un peu partout, et on distribue des vêtements, de la nourriture et parfois de l'argent à tous les gens qui sont venus. Donc il faut de l'argent. Et on a une dizaine d'inscriptions mentionnant de telles fondations. L'argent, quand on voit les montagnes pelées, on se dit d'où est-ce qu'il vient ? Ben, c'est très simple. Ils étaient dans les armées d'Azès, et l'argent, c'est le pillage de l'Inde. Le bouddhisme pacifique s'est établi grâce au pillage des armées d'invasion. Alors, Sesaka, bien qu'ils soient très grecs et très indiens, manifestement sont arrivés en groupe. Les chiffres donnés par les Chinois, c'est toujours de l'ordre de 100 000. Ça ne veut pas dire grand-chose, mais il est clair que vous avez un apport iranien important. On ne sait pas quelle était leur religion. Apparemment, il n'y avait pas beaucoup de différence avec celle des Grecs, puisqu'ils reprennent les types monétaires. Mais c'est sous cette dynastie que le bouddhisme prend son essor au Gandhara. Alors, la dynastie, elle est connue. La date de la dynastie est connue à peu de choses près. L'ère d'Azès, c'est 58 avant notre ère. Il y a eu avant Moès, qui appartenait à notre groupe, qui est 50 ans plus tôt. Vous avez là une monnaie à l'indienne du même Azès, Azu, que vous voyez ici. Et ici, vous avez Ayasa. Alors là, c'est de la monnaie de type indienne. Elle est carrée, quadrangulaire plutôt, avec une légende bilingue, Basileos, Basileon, Mégalou, Azu. Le roi des rois grand Azès, qui est reprise ici, Maharajasa, Rajarajasa, Mahatasa, Azu. Et des types indiens, bon, ça, c'est un bœuf à bosse. Pour ceux qui s'intéressent à l'art d'Arapa, vous verrez que ça ressemble beaucoup aux animaux que l'on a sur les seaux d'Arapa et avec leurs mangeoires. Et ceci est une chose très, très curieuse et très rare. C'est pour cela que mon collègue Olivier, qui a préparé toutes ces monnaies, l'a sélectionné. C'est un chameau de Bactriane à deux bosses. Les chameaux indiens ont une seule bosse. Et ça, c'est ce qu'on appelle un chameau de Bactriane à deux bosses. Ça ne renvoie pas nécessairement à la Bactriane, parce qu'on n'a aucune preuve que les Saka soit passé en Bactriane, sauf peut-être la tombe de Tilia-Tépé. Mais ces chameaux, ce sont ceux que l'on trouve dans le désert de Gobi, en Mongolie, et au Xinjiang aussi. Donc c'est à ça que ça renvoie, c'est aux anciennes... au territoire ancien des Saka. Et vous voyez qu'ici, ce n'est pas la lance, c'est l'arc. Voici une autre monnaie d'Azès, à la grecque aussi, où l'on voit bien également, c'est toujours Azès Ier, où l'on voit bien également la cuirasse, et avec une chose très nouvelle par rapport aux anciennes monnaies indo-grecques. C'est l'apparition d'un monogramme indien. C'est un sa karoshti, ce qui prouve que le chef d'atelier, ou en tout cas un haut fonctionnaire surveillant la frappe, était indien. Et au revers, vous avez les mêmes types. Là, vous avez un Zeus foudroyant avec toujours la même légende. Donc, le règne d'Azès, la partie importante de où les Sakas ont tenu le Gandhara, on peut dire que c'est de 50 avant notre ère, probablement un peu avant Azès, jusqu'aux alentours de 20, le dernier souverain étant Azès II. La détermination des deux Azès se faisant de diverses manières, d'une part par une inscription qui est, à mon avis, douteuse, c'est moi qui l'ai publiée, enfin, l'interprétation est douteuse, mais surtout au départ, comme je vous l'ai dit, par M. Jenkins, qui a remarqué que les types étaient à peu près la même, les titres sont exactement les mêmes, Basileos, Basileon, Megalou, Azou, et là vous avez Maharaja, Raja, Tirajasa, Mahatasa, Azou. Les types sont les mêmes, vous avez un dieu à trident que j'arrive pas à identifier là, mais qui est probablement un Zeus, et malgré le trident, hein, c'est pas un Neptune. Et puis deux monogrammes, un si et un monogramme grec, donc tout ceci paraît semblable à ce qu'on a vu. Il a une cuirasse, mais au lieu d'avoir la lance pointe en bas, il tient un fouet. Vous avez ici l'arc aussi qui apparaît. Un arc qui apparaît. Alors en soi, ça ne suffirait pas pour distinguer deux Azès. Effectivement, M. Senior pense qu'il n'y a pas deux Azès, mais deux Gondophares, alors que cette théorie signifie qu'il y a un seul Gondophares et deux Azès. Ce qui donne du poids à cette théorie, c'est que sur cette série de monnaies, on voit que la loi diminue, c'est-à-dire que dans des monnaies d'argent, il y a de plus en plus de cuivre. Les monnaies d'Azès, quand elles sont en argent, sont en argent presque pur. Les monnaies d'Azès II, on voit à partir d'un certain moment la teneur en argent décroître très sensiblement. Et ça a été un des grands phénomènes monétaires des débuts de notre ère, c'est-à-dire la perte de valeur à peu près totale de l'argent et le fait que les gens se sont méfiés de l'argent parce que ces monnaies semblent en argent. En fait, c'est très souvent du bronze simplement trempé dans une sauce de l'argent, on les appelle saucés, et les gens n'ont donc pas, ne les ont plus acceptés. Ce qui fait que pendant un certain temps, le monnayage qui était d'habitude argent pour les monnaies de valeur et bronze pour les monnaies qui n'en avaient pas, est devenu presque uniquement du bronze. Ce qui témoigne d'une crise économique et probablement d'une crise des échanges et qui est en relation avec les événements dont je vais vous parler. Et la rupture monétaire s'est faite avec Vima Katfizes, dont je parlerai tout à l'heure, qui a rétabli un nouveau système d'échange. Alors, nous savons que les derniers... J'ai mal passé celle-là. Nous savons que les derniers souverains de type Saka de la dynastie d'Azès se sont heurtés pour le contrôle du Gandhara à une nouvelle dynastie dont nous possédons les monnaies d'une dizaine de souverains, une dynastie essentiellement établie au Séistan. Beaucoup de monnaies viennent du Séistan afghan ou alors du Sindh pakistanais, avec des monnaies extrêmement barbares, d'un type très différent. Vous avez ici la monnaie du souverain le plus connu, qui s'appelle Hondo Ferru, et que l'on traduit par Gondophares. On trouve son nom aussi en karoshti. C'est le même type de monnaie que les Grecs. Hein. C'est en bronze, ça. Donc tête du souverain, légende. Vous voyez à quel point elle est barbarisée. Et au revers, divinité grecque, une Niké et légende en karoshti. Mais les noms sont non seulement ce sont des noms parthes. Undo Ferou, c'est en parthe, c'est Windopharne, celui dont la gloire est victorieuse. C'est un nom transparent et c'est très connu parce que en Occident, parce qu'il est mentionné dans l'apocryphe de saint Thomas comme ayant l'évangile de saint Thomas apocryphe. Comme ayant accueilli à la cour de Taxila Thomas et son frère, leur ayant commandé un palais et s'apercevant un an plus tard que le palais n'était pas construit parce que saint Thomas lui avait bâti un palais dans les cieux pour donner l'argent à tous les pauvres. Donc, ce type de monnaie est assez fréquent. Vous voyez qu'il est tout à fait. Hein, qu'est-ce qui se passe? On a une perte de lumière. Le roi est diadémé. Pourquoi est-ce que l'on sait qu'il est indo-parthe? Pour une raison simple, c'est parce que ces monnaies ressemblent tout à fait à celles des souverains partent de la même époque, en particulier de Gotarzès. Et puis, tous les noms de la dynastie, il y a Gotarzès, il y a Sazès, il y a Abdagazès, il y en a quatre ou cinq, il y en a plusieurs, sont des noms indopartes. Et vous voyez que le droit du souverain de Gotarzès, qui est le droit de la monnaie, vous montre un souverain tête à gauche qui ressemble beaucoup. Ça, c'est une autre monnaie de Gotarzès, hein, qui ressemble beaucoup à ce que l'on voit là. Elle est bonne, oui. Je ne sais pas ce qu'il arrive. C'est mon écran qui fait des problèmes. À ce que l'on voit là, c'est tout à fait le même type. Alors, c'est un des rares points fixes de la chronologie du 1er siècle de notre ère, parce que nous avons, d'une part, le fait que ces monnaies imitent Gotarzès, que les dates de Gotarzès sont connues, c'est 40-51 de notre ère, donc c'est une monnaie des environs de 50, et que d'autre part, à côté de Peshawar, Tartibaï, dans une inscription que je vous ai peut-être déjà montrée, il y existe une inscription datée de l'an de la 26e année de règne du roi Gondopharès de l'an 103 probablement d'Azès, c'est-à-dire de 46. Et ça correspond bien, l'apocryphe de saint Thomas, comme on n'en a pas besoin, mieux vaut s'en dispenser parce que utiliser une source légendaire pour établir un fait qui, de toute façon, est connu par ailleurs, on peut s'en dispenser facilement. Donc, c'est à peu près à cette époque-là que se termine que les Sakas sont remplacés par des Indopartes qui se retrouvent très rapidement eux-mêmes en conflit avec les futurs Kouchans. Alors, le Kouchan de service, si j'ose dire, on va essayer de vous l'amener. Le Kouchan de service, celui qui est le premier arrivé au Gandhara, c'est celui dont vous avez les monnaies là, des monnaies dont vous voyez que la légende n'est pas très lisible, qui sont toujours de type grec, avec ici une légende en grec et là, théoriquement, une légende en karoshti, dont on a toute une série dans la région de Kaboul et au Gandhara qui sont des monnaies très, très barbares. Manifestement, il n'y a pas de, il n'y a pas un atelier bien fixé. En voici une un peu meilleure, et là, on lit le nom Kozulo. Donc, c'est une monnaie de ce monsieur Kujula. En voici encore une autre, où l'on voit encore le nom de Kozulo, et sur celle-ci, je reviendrai dans un instant. Alors là, on voit très bien, si vous lisez même pas le grec, là, Kozulo, et puis il n'y a qu'à pas ça, et ça se lit également en karoshti, avec un type de roi regardant à droite, roi diadémé, et un Héraclès dans la massue, c'est type indo-grec. Ce sont des monnaies qui imitent le monnayage d'Hermaios, qui a dû régner dans la région de Kaboul à la fin du 1er siècle, et qui sont très nombreuses. Et manifestement, on est là en présence d'un monnayage fait par quelqu'un qui est un nouvel arrivant et qui, n'ayant pas de tradition monétaire, copie les monnaies de bronze et uniquement les monnaies de bronze de son prédécesseur en y ajoutant son nom. C'est un monnayage qui était de très très peu de valeur, mais c'est déjà l'affirmation qu'il y a là un nouveau pouvoir politique. Ce qui compte, ce n'est pas du tout l'imitation des Grecs, c'est le fait qu'on a un monnayage en rupture par la qualité et aussi par le nom du souverain, qui n'est pas du tout un nom grec et qui n'est pas du tout un nom sakka, c'est Kozulo. Or, on a la chance d'avoir un texte chinois qui conserve la trace du premier souverain couchant et qui nous donne une forme à peu près semblable, qui est quelque chose comme Kéou Tsiouke. Ceci est donc Kozulo Katfizès. Et la date est fixée non seulement par des spéculations sur les mouvements des couchants, mais par ce type de monnaie, qui est l'imitation d'une monnaie de bronze romaine, soit au type d'Auguste, soit au type de Claude. Et dans ce cas-là, si c'est Auguste, Auguste est mort en 14 de notre ère, si c'est Claude, il est mort en 50. Et vous voyez bien que ça vous donne des monnaies qui sont entre 20 et 50 de notre ère, étant donné le temps qu'il faut pour qu'un Auréus romain arrive dans le Gandhara et que quelqu'un l'imite. Mais en tout cas, on est aux environs du 1er siècle, on est aux environs, aux environs du début du 1er siècle, on est à peu près au temps d'Azès II, on est un peu avant Gondopharès, et ces monnaies que l'on trouve beaucoup dans la région de Kaboul, qu'on trouve également dans le Gandhara, sont le témoignage de la première poussée Kushan en Inde. Il se heurtera... Oh, c'est pas là. On va essayer de retrouver ça. Le successeur de Kujula Katfizès, qui pose beaucoup de problèmes, je ne reviens pas là-dessus, sera un souverain qui n'a pas laissé son nom, que certains collègues maintenant veulent appeler Vimatakto, mais enfin, c'est purement subjectif, et qui s'appelle Sotermégas, dont on sait qu'il est couchant, parce que dans les séries monétaires, il se place toujours entre Kujula Katfizès et Vimakatfizès. Et dans les stratigraphies, dans les fouilles stratigraphiées, c'est toujours sa position. Dans les trésors monétaires, les monnaies de Sotermégas se trouvent soit avec des monnaies de Kujula, soit avec des monnaies de Vimakatfizès. Donc la série est connue depuis très longtemps. Ce qui le relie aussi au couchant, c'est ce monogramme très particulier qu'on appelle un tamga, et qui va différer, changer de forme selon les souverains couchants, mais qui n'apparaît que sur les monnaies couchanes et qui évoque, paraît-il, les signes que les éleveurs nomades apposaient sur la cuisse de leurs chevaux au fer rouge pour marquer que le troupeau leur apparaissait. Donc vous avez là le Tamgat Soter Megas, qui n'est pas celui de Vimakatfizes, qui n'est pas celui de Kanishka. C'est élaboré. Vous avez le roi qui est assimilé à un soleil, puisqu'il est rayonnant, tenant la lance, et au revers, à peu près le même type qu'Azès, mais c'est aussi le même type qu'Héraos. Alors, je ne veux pas revenir sur la question très difficile du nom réel de Soter Megas, etc. Ce que l'on sait, c'est que les dates sont à peu près fixées aux alentours de 40-50, parce qu'il existe une monnaie de Soter Megas qui est surfrappée par Gondophares. Ils sont donc contemporains. Soter Megas a été un très très grand souverain. Ses monnaies se trouvent par dizaines de milliers en Bactriane, au Gandhara et dans toute l'Inde gangétique. Ce qui prouve qu'à la fin, Soter Megas l'a emporté sur Gondophares, mais qu'il y a eu des échecs au début. Pour qu'une monnaie soit surfrappée, il faut qu'elle soit dans la possession de... dans la possession d'un souverain autre. Et là, dans ce cas-là, comme on a deux dynasties très différentes, c'est probablement à la suite d'une victoire. Donc là aussi, nous sommes nous avons des synchronismes qui sont tout à fait sûrs. La grande bataille s'est faite vers 40-50, et c'est vers cette époque-là que les couchants ont mis la main définitivement, ou en tout cas pour deux siècles, sur le Gandhara. Ces couchants, qui ils sont? Ce sont, d'après les sources chinoises, interprétation anglaise, les descendants des Yuezhi. Et ils sont descendants des Yuezhi, installés depuis les 150 environ, avant notre ère, c'est-à-dire depuis deux siècles, en Bactriane du Nord. C'est-à-dire qu'ils se sont en grande partie assimilés. C'est une chose importante parce que c'est en Bactriane du Nord qu'ils ont rencontré pour la première fois l'architecture grecque, les monnaies grecques, la langue grecque. Et vous voyez que les inscriptions sont en langue grecque, et les dieux grecs. Mais aux alentours de notre ère, c'est-à-dire deux siècles après leur installation, ils ont toujours un type qui se réfère à leur passé de cavaliers nomades. Et ça va continuer jusqu'au 3e, 4e siècle de notre ère. Les premières monnaies Gupta montrent encore les souverains dans un costume nomade qu'ils n'ont sans doute jamais porté que pour les cérémonies. Le passé est resté ancré. Ce qui est clair, c'est qu'ils ont changé de langue. Très probablement, ils ont appris la langue de la Bactriane, et cette langue, ils la considèrent comme la leur. Et c'est ce que va proclamer l'un des grands souverains de la dynastie, Kanishka. À partir de Kanishka, les monnaies vont être en bactrien. Et ils ont ou bien gardé leur ancienne religion, ou bien adopté plutôt celle de la bactriane, c'est-à-dire qu'ils sont masdéens. Leur nombre, on n'en sait rien, mais en tout cas, ils ont tenu à garder leur identité ethnique. Et probablement, ils sont arrivés en assez grand nombre, puisque les Chinois nous disent qu'ils étaient plusieurs centaines de milliers. Il est évident que ces gens-là sont arrivés en Inde comme ils sont arrivés en Bactriane, pour peupler l'Inde et y trouver des ressources qu'ils ne trouvaient plus en Bactriane. Il y a donc là un nouvel élément de peuplement qui est sans doute le plus iranien qui soit arrivé dans cette région depuis les Perses achéménides, mais qui en même temps est relativement est aussi en partie hellénisé. Alors, la question va être réglée la conquête va être achevée par celui qui fut plutôt probablement le plus grand souverain couchant, bien que tout le monde parle de Kanishka, c'est Vima Kadphises. La conquête de l'Inde définitive, est faite par lui. On trouve ses monnaies à Mathura, bien stratifiées au-dessus de celles des monnaies de Kshatrapa. Et on sait qu'au moins jusqu'à Uvishka, c'est-à-dire pendant plus d'un siècle, les Kushans ont régné en maître sur toute la Bactriane et sur toute l'Inde du Nord. Et c'est Vima Kadphises qui fait la réforme monétaire dont je vous parlais tout à l'heure. Là, vous avez un bronze, mais à partir de Vima Kadphises, vous avez une rupture totale dans le monnayage ancien. Vous aviez un monnayage ancien avec des pièces d'argent de type drachme, tétradrachme en Bactriane, drachme en Inde, qui était en argent. Et un monnayage de bronze très petit et tout à fait secondaire, au point qu'on a trouvé très peu de monnaie grecque en bronze, ce qu'on appelle les oboles. La réforme faite par Vima consiste à faire un double monnayage. Il ne peut plus utiliser l'argent parce que l'argent est dévalorisé depuis les dévaluations qui sont produites sous Azès II. Et donc, il a des monnaies d'or, qu'on appelle des dinars, qui sont très belles, mais qui sont d'un pouvoir d'achat absolument faramineux. Et donc, pour tous les jours, on a d'énormes monnaies. Elles sont très grandes. Les monnaies de bronze font à peu près 3 cm de diamètre. Elles sont très épaisses. Des monnaies frappées par le souverain, avec le tanga dont je vous parlais. Voici le souverain, le tanga de Vima Kadphises. Ceci étant autre chose, c'est ce qu'on appelle un mangala ou un nandipada. C'est un signe indien. Et il y aura une autre réforme monétaire par son successeur Kanishka. Mais la réforme monétaire introduit un type qui va rester jusqu'aux premières frappes Gupta du roi le costume indien, le costume nomade, c'est-à-dire ce qu'on appelle le kaftan ou le chapan, le long manteau avec de très très longues manches, vous voyez ici les plis des longues manches, et puis des bottes en feutre, une énorme massue, cet instrument qui semble être un trident, et le roi qui tend la main sur un autel, on dit toujours que c'est un autel du feu. La légende va rester la même, c'est en peu de choses près. Vous avez donc sur cette légende ici le nom de Owemo Kadphises, qui est dit Owemo Kadphises, et au revers, vous avez une légende indienne qui est beaucoup plus intéressante, qui est Maharajasa Rajadi Rajasa. Il est Basileos Basileon là-dessus, mais là vous avez simplement Basileos, tout ceci est parti. Donc il est Maharajasa Rajadi. Ça commence où ? Oui, c'est ici. Il est Maharajasa Rajadi Rajasa. Sarvaloga Ishvarasa, Ma Ishvarasa, et puis le nom apparaît ici, Ima Vima, Ima Kadphisasa Tradatta. La légende se traduit par le grand roi, roi des rois, et on traduisait Sarva Loga Ishvarasa par maître du monde entier, alors que le revers vous montre un Shiva devant le taureau Nandin et ce signe indien. Et donc la traduction la plus vraisemblable, c'est qu'en fait, c'est que le mot Ishvara est la fin de ce qu'on appelle un Bahuvri, c'est-à-dire celui qui a comme seigneur le maître du monde, c'est-à-dire qu'il est Shivaïte. Et il s'appelle Vimakatvises et il est sauveur. Le type, à partir de ce moment-là, en tout cas, le type de revers ne change plus. Le type de droit ne change plus, le type de revers va changer sous Kanishka, mais c'est le début de l'Empire couchant. C'est la fin de la conquête de l'Inde, en tout cas de l'Inde du Nord. Les territoires que Kanishka gouvernera sont manifestement hérités de ceux conquis par Vimakatvises. Alors là, les dates sont très disputées parce que l'on revient sur la date de l'an 1 de Kanishka. Disons qu'en tout cas, c'est la seconde moitié du 1er siècle de notre ère et il y a manifestement une implantation d'un personnel qui a voulu montrer qu'il était d'origine nomade, qu'il était resté iranien, même s'il était converti par ailleurs aux religions indiennes. Ce n'était pas dans des religions polythéistes, ce n'est pas incompatible, et qui a imposé son personnel probablement dans l'administration indienne. On peut le voir. On n'a pas d'inscription bactrienne en Inde, peut-être pas encore, mais ce que l'on a, c'est dans l'art gréco-bouddhique, environ 200 ou 300 donateurs qui sont représentés avec ce costume typique et qui est tout à fait inconfortable en Inde. Dire à Peshawar, la température la plus basse, c'est 18 degrés. L'été, c'est 45 degrés. Donc, ce n'est pas un costume qu'on porte tous les jours. C'est le costume du dimanche. Pour ces gens-là qui ont tenu à garder le signe manifeste de leur appartenance ethnique, et les rois continueront à s'appeler jusque sous les Gupta, même quand ce ne sont plus que des petits roitelets ne gouvernant que quelques dizaines de kilomètres carrés, ils continueront à s'appeler Shahi. Donc là, vous avez un gros bouleversement de gens qui sont des Iraniens, qui sont frottés d'hellénisme et qui se veulent aussi indiens de religion. Si ça rappelle beaucoup les définitions de l'art bouddhique, gréco-bouddhique, c'est pour cela qu'on leur a attribué en général la fondation de cet art, bien qu'il commence une cinquantaine d'années auparavant. Je vous remercie. Je vous souhaite de bonnes vacances.